Podcast La Première.
Bonjour, Jacques-Olivier au micro pour un deuxième mémo câblé. Nous allons en effet retrouver Christophe le Jeune et poursuivre avec lui l'histoire d'Internet telle qu'il la raconte dans l'ouvrage « Démocratie 2.0, une histoire politique d'Internet » paru aux éditions du Centre d'Action Laïque. Nous avons vu déjà qu'en réaction au lancement surprise de Spoutnik par l'Union soviétique en 1957, un des aspects de la riposte américaine sera la mise sur pied d'une agence américaine des projets avancés, dont le but est la coordination des recherches tant scientifiques que militaires, l'agence ARPA. Un des axes de travail de cette agence, ce sera l'interconnexion des ordinateurs, encore rare et très imposant à l'époque, qui va déboucher sur les prémices d'un réseau, certes très modeste au départ, le réseau ARPANET. Les premières connexions expérimentales entre deux de ces ordinateurs auront lieu en 1964, mais, et nous allons retrouver Christophe le Jeune sur ce point, le réseau va s'agrandir dans le courant de cette décennie. On en est donc au début des années 60, où on commence à mettre en pratique d'abord modestement. Ça va se passer entre deux ordinateurs dans deux universités américaines différentes. Puis on va passer à quatre. Pendant ce temps-là, on cherche effectivement à comment uniformiser tout ça, standardiser tout ça, parce que c'est un des mots-clés, au fond, dont on ne parle pas souvent, mais de l'informatique de façon générale, standardiser, être tous d'accord pour parler la même langue, avec les mêmes références, c'est une chose qui est loin d'être, d'être simple. On va donc passer de deux à quatre universités, et ainsi de suite. Donc le réseau est en train de se créer, en
tout fait. Tout à fait.
Donc les tuyaux commencent à être interconnectés, dirons-nous.
De plus en plus, les universités vont être connectées. On commence par les États-Unis, évidemment, puisqu'on commence par les personnes qui sont en contrat avec la DARPA, et l'ARPANET commence à se mailler. On arrive dans les années, fin des années 60, début des années 70, cette question de la standardisation va devenir évidemment prégnante, et c'est la multiplication de ces appels à commentaires qui vont définir comment les différents échanges d'informations peuvent être réalisés.
Donc fameux protocoles.
Fameux protocoles, voilà. Les protocoles déposés dans ces documents appels à commentaires vont être stabilisés à partir de la fin des années 60, début des années 70. Mais ça continue aujourd'hui. Il ne faut pas avoir l'impression que tout a été fait à cette époque-là. Il va y avoir ce mouvement de standardisation, d'écriture de protocoles qui va être entamé. Et comme vous le disiez, cette standardisation est quelque chose de nécessaire si on veut que les machines puissent communiquer entre elles. Il ne s'agit pas d'uniformiser les choses au niveau intellectuel, mais de permettre aux machines de communiquer entre elles. Ça peut sembler un peu artificiel que je le précise ici, mais souvent les intellectuels et les sciences humaines en particulier, réagissent de manière assez épidermique à des termes comme standardisation, en se disant « mais si on standardise, on va plus pouvoir penser de manière libre ». Dans la matière qui nous occupe, ne pas standardiser, c'est empêcher tout simplement la communication entre les machines, donc c'est ruiner le projet d'une interconnexion des machines et du réseau, ce qui n'empêche pas évidemment d'avoir une pensée non standardisée face à ces machines.
On voit donc ce réseau se mettre en place, mais bon, c'est réservé, dirais-je, à quelques happy few.
C'est ça. Et cette idée de happy few va être vraiment très importante dans cette décennie des années 70, puisque dans un premier temps, on est sur des projets de recherche qui sont financés en partie par l'armée américaine. Donc, qui a accès à ce réseau ARPANET? Les universitaires. Le maillage se fait d'abord entre universités. Donc, les tuyaux passent d'une université à l'autre. Donc, les universitaires sont sur le réseau. Et très vite, d'ailleurs, ça ne va pas être que les universitaires qui développent le réseau, mais on va ouvrir aux autres chercheurs. Donc, les premiers utilisateurs d'ARPANET, ce sont les universitaires. L'armée a évidemment accès à ARPANET aussi, puisqu'elle est quelque part un des commanditaires de ce projet. Et certaines grandes entreprises, américaines principalement, vont également négocier le fait de pouvoir y avoir accès. Alors quand je dis négocier, c'est pas juste donner des sous pour entrer. Ces développements sont des développements qui impliquent beaucoup de technologies. Et donc le fait de s'associer à des entreprises de télécommunications, des entreprises, on parle de télécommunications aujourd'hui, mais d'électronique, a véritablement un sens et donc un avantage pour les chercheurs. Et donc, les entreprises qui vont rentrer dans la course, on voit bien qu'il peut y avoir un intérêt à demander une contrepartie et donc à avoir accès à ARPANET. Mais on est loin d'un réseau qui est accessible à monsieur et madame tout le monde. À ce stade-là, ARPANET est réservé aux personnes qui sont impliquées plus ou moins activement dans son développement. Alors, pour autant, ça ne veut pas dire que parallèlement à l'ARPANET, il ne se passe rien au niveau de la communication à distance via des réseaux électroniques, informatiques, etc. Puisqu'en fait, ce qui va se passer dans la deuxième moitié des années 70, c'est qu'on va voir émerger toute une série de pratiques de communication à distance, mais sur des réseaux différents. C'est-à-dire que sur ARPANET, les universitaires, les militaires et les quelques entreprises qui y ont accès, au début, on fait passer des petits bouts d'informations pour des raisons de test. Une fois que ça commence à fonctionner, on va développer des applications qui permettent d'échanger des emails, par exemple. Des emails très similaires à ce que nous connaissons aujourd'hui. Parallèlement à ça, d'autres réseaux électroniques se développent. Et il se développe sous toute une série de formes. Alors, dans le grand public, par exemple, on va voir se développer à la fin des années 70 des espèces de groupes de discussion, de forums de discussion, qui ne passent pas du tout par ARPANET, qui passent par la ligne téléphonique, avec un dispositif qui ressemble un peu à ce que les Français ont connu via le Minitel, qu'on n'a pas beaucoup connu en Belgique. Donc, on a un petit terminal qui permet, via la ligne téléphonique, de communiquer de manière écrite avec d'autres personnes équipées du même type de terminal. Et ces babillards électroniques, comme les appellent les Québécois, les bulletin board systems, vont passer par la ligne téléphonique. Alors c'est important de se rendre compte que toute une série de pratiques liées à la télécommunication écrite vont se développer parallèlement, dans un premier temps, sans avoir de contact entre elles. Donc, sur ARPANET, communication notamment via email, des babillards électroniques via le réseau téléphonique. Sur ARPANET, aussi à la même époque, on voit se développer quelque chose qui est le précurseur de la messagerie instantanée, donc du chat, les donjons multi-utilisateurs, les MUD. Donc là, on est sur ARPANET, donc toujours pour les utilisateurs privilégiés qui y ont accès. On voit du chat se développer, enfin l'équivalent du chat. Et puis, toujours à la fin des années 70, on va voir se développer un troisième mode de communication collectif, qui est le réseau Usenet.
Alors ça, c'est en soi toute une histoire.
C'est
aussi
toute une histoire, oui, en effet. Alors le réseau Usenet, ça part du développement d'un système informatique. Au départ, pas du tout un système informatique qui avait nécessairement comme ambition de communiquer via un réseau informatique, c'est le système Unix. Alors, le système Unix, il est développé par des chercheurs, des développeurs, qui sont employés par les laboratoires Bell de la compagnie de téléphone américaine. Alors, ils font ça un petit peu sur le côté au départ, hein. C'est pas vraiment le projet central sur lequel ils ont été mis. Et ils vont publié dans un article scientifique les résultats de leur développement. Ils vont présenter Unix. Et la présentation qu'ils font intéresse quelques personnes qui les contactent et qui disent « Mais nous, on est intéressés d'acquérir ce système informatique, hein, Unix, c'est un operating system, un système d'exploitation. On est intéressé de pouvoir l'acheter à votre employeur, donc au laboratoire de AT&T, la compagnie de télécommunications américaine, pour pouvoir l'installer sur nos machines. Le problème, c'est que le statut des Bell Labs, de l'employeur des concepteurs de Unix, donc les concepteurs en question, c'est Ken Thompson et Denise Ritchie, ce statut légal ne leur permet pas de vendre des logiciels. Et donc, ils leur disent, nous, on n'a pas le droit de le vendre. Donc, si vous voulez le partager, le diffuser, eh bien, vous devez le donner gratuitement. Alors, c'est ce qu'ils font. Alors, ce n'est pas totalement gratuitement. Ils se font quand même rétribuer les frais de timbre, puisque, vu qu'on n'a pas encore de réseau informatique, on ne peut pas télécharger ça sur Internet. Donc, ils mettent ça sur des supports, ils mettent ça dans une enveloppe et ils envoient par la poste. Donc, ce système Unix va se diffuser sur une série de machines, de calculateurs, qui sont toujours encore des grosses machines. Mais ce système, il a été développé pour les machines qui étaient dans les laboratoires de la compagnie téléphonique où travaillaient Thompson et Ritchie. Autrement dit, il n'était pas prévu pour toutes les machines. Et les personnes qui vont recevoir, qui vont acquérir ce Unix, vont se rendre compte qu'il manque des petits morceaux de programme pour faire fonctionner telle carte particulière, se connecter à une imprimante, ce genre de choses. Mais vu qu'on est face à des gens qui sont ingénieurs ou physiciens, ils ont les moyens intellectuels et techniques pour développer ce qui manque.
Oui, ça reste une affaire d'initiés.
Ça reste une affaire.
Et débrouillards.
D'initiés, de débrouillards, de personnes qui ont quand même une très forte culture et connaissance technique. Alors, ça veut dire qu'ils disposent non seulement du système, mais ils disposent des codes qui ont été écrits pour concevoir ce système. Ce qui n'est pas le cas la plupart du temps aujourd'hui quand on achète un operating system. On a l'operating system, mais on n'a pas les codes. Ici, les codes sont fournis avec, de manière à ce qu'on puisse développer les petits bouts qui manquent. Alors chacun, de son côté, va développer le petit bout qui lui manque. Et très vite, les différents utilisateurs vont réaliser que s'ils ont développé un petit bout pour une imprimante, peut-être que quelqu'un à quelques centaines de kilomètres de là aurait besoin du même petit bout, et qu'en échange, cette autre personne qui a besoin du petit bout de l'imprimante a peut-être développé un autre petit bout qui permet de piloter un disque, et que ce petit bout, ils en auraient bien besoin aussi. Donc on commence à multiplier les envois par la poste de petits bouts de programme, et assez vite, donc, dans la deuxième moitié des années 70, il s'impose à l'idée des gens qui utilisent Unix que cette façon de fonctionner n'est pas très rationnelle et n'est pas la plus efficace. Au laboratoire Bell's de AT&T, un des collègues de Thompson et Ritchie va développer un système qui permet de partager les petits bouts qui ont été écrits. C'est un système de copie de Unix à Unix. Donc, d'une machine Unix à une machine Unix, deux machines peuvent se synchroniser. Ça veut dire quoi, se synchroniser? C'est-à-dire échanger les petits bouts qui leur manquent. Ce système, au départ, fonctionne par la ligne téléphonique. Donc, les machines sont dotées d'un modem. Elles téléphonent, si vous voulez, à une autre machine Unix, créent une connexion et s'échangent les petits bouts de programme qui manquent. On est là. Fin des années 70, en 1978. Très vite, deux étudiants américains, Tom Truscott et Jim Ellis, se disent que cette façon de synchroniser des petits bouts de programme pourrait détourner. Donc ils se disent, tiens, on a un système qui permet d'échanger des petits bouts de programme, mais si on ne mettait pas un petit bout de programme, mais un message à la place du bout de programme, si on disait « bonjour, comment ça va ?», eh bien, vu que les machines se synchronisent les uns les autres, ce petit bout de messages apparaîtrait sur toutes les machines. Et donc, il suffirait d'ajouter un autre petit bout de texte derrière, puisqu'un bout de programme, c'est un bout de texte, finalement, qui dit « ça va bien, et toi ?» On aurait un système de messagerie qui se mettrait régulièrement à jour et qui permettrait d'avoir des discussions à la place d'une liste de bouts de programme. Et c'est en détournant le système Unix to Unix copy que Truscott et Ellis vont créer Usenet, on est en 79-80. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est que on est encore sur un dispositif différent. On n'utilise pas ARPANET, on n'utilise pas le système de babillard électronique, on utilise un nouveau système qui, dans un premier temps, passe par la ligne téléphonique, par des modems, et qui va instaurer un système de messagerie collective, de groupe de discussion, qui est le système Usenet.
Qui va partir, au fond, de quelques initiés.
C'est ça.
Et d'initié en initié, je dirais que là aussi, le réseau va se créer.
Ouais. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est encore une fois des initiés, mais ce n'est pas les mêmes initiés que les premiers. Hein, on est face à des gens qui savent écrire du code, puisqu'ils écrivent des petits bouts de programme, qui gèrent des gros calculateurs dans des entreprises, voire dans des universités. Mais s'ils ont inventé ce système, s'ils utilisent ce système qui passe par la ligne téléphonique, c'est bien qu'ils n'ont pas accès à ARPANET. Et c'est bien là tout l'enjeu. C'est une alternative, oui. Les personnes qui créent Usenet connaissent les développements d'ARPANET et ont envie d'en disposer. Mais de par la position qu'ils occupent, de par le fait qu'ils ne travaillent pas pour un employeur qui est en contrat avec l'agence d'ARPA, eh bien, ils n'y ont pas accès. Et donc, le développement d'Usenet va être motivé par l'idée d'avoir au moins aussi bien que les autres, même si on ne fait pas partie des happy few. Donc, on a des premiers happy few qui sont ceux d'ARPANET, et puis on a toujours des initiés qui sont ceux qui vont développer le Usenet avec cette idée de vouloir aussi bien que les autres. Et puis très vite, quand on est dans cette position-là, et là c'est le sociologue qui parle, l'idée de dire qu'on est mieux que les autres, parce qu'on est arrivé peut-être un petit peu après eux. Et il va y avoir chez les utilisateurs de Usenet le développement d'une culture, d'une idéologie, qui vu qu'elle est basée d'abord sur un principe technique qui est de mettre en commun les bouts de programme, eh bien on va voir le développement d'une idéologie qui est celle de l'entraide. Ce qui est mis en avant en premier lieu, c'est une culture de la mise en commun des ressources et de l'entraide. Alors, fondamentalement, ce n'est pas une culture qui est très différente de celle des appels à commentaires des scientifiques qui ont développé l'ARPANET, mais vu qu'on est chez des personnes qui n'avaient pas accès à ARPANET et qui ont développé Usenet comme une alternative, même si on a des cultures qui sont très proches, ils se vivent comme des personnes d'une autre culture, d'un autre monde, et donc d'un monde qui est mieux. Et donc cet argument qu'on retrouve encore aujourd'hui, de l'idée d'un Internet alternatif, d'un Internet altermondialiste, d'un Internet libertaire, c'est un élément culturel, idéologique, qui en fait a sa source dans la culture Usenet, qui va développer cet argument d'un Internet libre face à un Internet militaire. Et on voit bien pourquoi cet argument est développé par les gens qui utilisent Usenet, c'est qu'en face d'eux, ils ont en effet des universités, des entreprises qui sont en contrat directement avec la défense américaine. Et l'existence de ce contrat fait qu'eux n'y ont pas accès.
Et donc c'est les exclus, quoi.
C'est les exclus. Qui vont développer un
argument. La revanche des exclus.
C'est la revanche des exclus contre l'armée américaine. Et c'est de là que vient cette critique de l'armée américaine. C'est de cette culture Usenet à la fin des années 70.
Oui, ce qu'il faut bien voir aussi, c'est qu'on se tromperait en imaginant tous ces gens dans leur grenier, devant leur petit ordinateur.
Hein. Tout à fait.
On n'en est pas encore là, hein,
pas
loin
de
là.
Hein. C'est toujours des grosses machines qui prennent beaucoup de place, qui font beaucoup de bruit. Et qu'un particulier ne peut pas s'offrir. On est dans des entreprises, on est dans des universités. Les machines en question sont utilisées à des fins industrielles par des grandes structures. Hein. Mmh. On est très loin du micro-ordinateur ou même de l'ordinateur portable qu'on a sur ses genoux dans son salon ou de la tablette, voire du petit téléphone.
Des smartphones.
On est encore très 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 loin de là.
Je vous rappelle que Christophe Lejeune nous raconte l'histoire d'Internet.
L'étape suivante, on pourrait presque dire que ça va être une espèce de fusion d'ARPANET et Usenet, au fond.
Donc, très
on
vite,
se dit, on va voir, on a deux trucs, là, pourquoi ne pas les faire communiquer, encore une fois.
En fait, ça va aller très très vite, hein, puisque c'est toute fin des années 70 que Usenet est mis sur pied. Ça fonctionne effectivement en 1980. Et on l'a dit, les personnes qui utilisent Usenet vivent ça comme une alternative, mais leur modèle, finalement, c'est ARPANET. Et donc, l'idée de connecter les deux est là dès le départ. Il va falloir attendre 2-3 ans pour qu'il y ait effectivement une passerelle entre Usenet et ARPANET. Une passerelle qui, dans les premiers temps, va être pas très fiable, ce qui va d'ailleurs contribuer à renforcer cette frustration et cette identité d'alternative, de refouler, de laisser pour compte de l'ARPANET. Mais après quelques mois d'ajustement et de définition de protocole, hein, puisqu'on en est toujours là, la passerelle va être fonctionnelle. Et va d'ailleurs, les groupes Usenet vont continuer à être fonctionnels pendant très très longtemps. Hein. Là, même si c'est quelque chose qui reste daté, il existe encore pas mal de groupes Usenet actifs aujourd'hui dans les universités. Mais à la différence de l'origine, ils ne passent plus évidemment par la ligne téléphonique, ils passent bien aujourd'hui par le réseau Internet.
On peut parler à partir de ce moment-là de la naissance d'Internet.
Oui, donc jusqu'ici on parle d'ARPANET.
Ou de Usenet.
Ou de Usenet. On parle de Usenet ou d'un côté ou d'ARPANET de l'autre. Si aujourd'hui on parle d'Internet, c'est parce que quelque chose a changé depuis l'origine. Et en fait, il y a au moins deux choses qui ont changé. Le fameux protocole dont on a déjà parlé à plusieurs reprises, qui était utilisé par ARPANET, n'est pas le même que le protocole d'aujourd'hui. C'est en fait en 1983 que ARPANET va laisser tomber le protocole de réseau qui était utilisé à l'époque, au profit d'un autre protocole, d'un protocole qui avait été développé de manière alternative, comme étant une correction, quelque chose qui fonctionnait mieux, qui contrôlait mieux la transmission des données. Et ce nouveau protocole, c'est le TCP/IP, dont on a peut-être parfois entendu parler.
Oui, donc qu'on trouve toujours aujourd'hui. Hein,
qu'on trouve toujours aujourd'hui.
Encore.
Et donc, cette migration de ARPANET du premier protocole vers le TCP/IP marque un basculement. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on considère qu'on parle d'Internet et non plus d'ARPANET. Alors, c'est le premier élément qui permet de dire qu'on a vraiment l'émergence d'Internet tel qu'on le connaît aujourd'hui, en 1983, c'est ce changement de protocole. Mais il y a une deuxième chose. Si on parle d'Internet, le mot Internet, ARPANET, on voit bien, c'est le réseau d'ARPA. Internet, ben, si on regarde les mots, c'est quoi ? C'est un net, c'est réseau. Inter, c'est l'idée d'être entre ou de mettre ensemble plusieurs réseaux. Parce qu'au départ, l'idée qui apparaît dans les années 80, c'est de faire communiquer entre eux différents réseaux. Donc, ARPANET change de protocole, mais ARPANET va être connecté à d'autres réseaux. Donc, on va rendre possible l'échange d'informations entre ces ordinateurs qui sont dans les universités et d'autres ordinateurs ou d'autres machines, comme par exemple des satellites ou des réseaux qui sont des réseaux radio, donc qui ne passent plus par des tubes qui sont des fils, mais par d'autres modes de connexion. Et donc, l'idée d'avoir baptisé ça « Internet », ou l'expression qu'on a en français de réseau des réseaux, qu'on utilise parfois sans la comprendre, c'est bien, Internet est bien un réseau de réseaux. C'est un réseau qui connecte entre eux plusieurs réseaux qui, jusque-là, jusqu'au début des années 80, étaient indépendants les uns des autres. Donc on a une idée d'une interconnexion. Et décidément, 1983 est l'année des mises en commun. Parmi ces réseaux qu'on interconnecte, il y a Usenet qui va aussi être connecté à ARPANET devenant Internet.
1983, c'est aussi autre chose. Je dirais que c'est l'apparition de Richard Stallman.
Oui, tout à fait. Hein,
et là aussi, c'est un autre pied culturel presque de l'Internet qui apparaît. Parce que bon, il faut revenir peut-être un peu en arrière, et donc à l'origine de ce Usenet, hein, donc c'est le système d'exploitation Unix, que chacun bidouille un peu, il faut bien le reconnaître.
Oui.
Hein, on échange ses bidouillages, mais enfin chacun bidouille un peu de son côté. Au départ, vous l'avez dit, hein, donc ça ne pouvait pas être vendu. Mais bref, les bidouillages, ça appartient à qui? Qui est propriétaire de quoi? Au fond, il y a donc cette question de qui possède quoi dans l'affaire qui apparaît là, qui émerge.
Alors, on est, pour faire un petit jeu de mots, on est un peu dans le flou artistique. C'est un jeu de mots pour les informaticiens, parce que quand on ne dit pas à qui appartient du code, il y a une licence qui s'appelle la licence artistique. Mais sans le jeu de mots, on en est bien là, à ce stade-là. Il faut savoir qu'à l'époque, les personnes qui écrivaient du code informatique avaient l'habitude de l'assortir d'une petite note qui disait à qui ça appartenait et sous quelles conditions. Mais là aussi, c'était très peu coordonné. Ces documents pouvaient se contredire les uns les autres. Il n'y avait évidemment aucun juriste qui était passé là-dessus. Aussi pour la raison qu'il n'y avait pas d'enjeux commerciaux à ce genre d'échange. On est de nouveau soit entre ingénieurs, soit entre scientifiques qui partagent des recettes de cuisine. Cependant, progressivement, avec l'émergence peu à peu de l'informatique, non seulement comme une discipline académique, mais aussi comme un produit qui pourrait se vendre.
Outil de gestion aussi. Hein,
un outil de gestion. On voit, il y a des nouveaux enjeux qui apparaissent, des enjeux commerciaux notamment. Et l'apparition sur la scène d'un Richard Stallman vient un peu de là. Donc Richard Stallman, c'est un chercheur à l'origine, chercheur au MIT, et il a suivi le développement de Unix, ou les développements de Unix, puisque vous le disiez, ben, on va voir en fait une prolifération de systèmes bidouillés, chacun un peu à leur sauce, et donc il n'y a plus un Unix, mais il y a toute une série de Unix, dont on ne sait pas trop bien quelle partie appartient à qui. Alors, en 1983, décidément une année charnière, on voit apparaître sur le réseau Usenet, donc ce réseau d'échange de messages, un message de ce chercheur du MIT qui lance un appel à volontaires en disant « Écoutez, je me lance dans un projet un peu fou, je vais faire un nouveau système d'exploitation. Vous connaissez tous Unix, parce que la plupart des gens qui fréquentent, les happy few qui fréquentent Usenet, par définition connaissent Unix, puisque c'est le réseau des utilisateurs de Unix. Eh bien, je vais développer un système qui serait une espèce de Unix, mais qui sera compatible avec Unix, mais qui ne sera pas Unix, avec une préoccupation première qui est l'idée de faire quelque chose de standard, et avec l'idée que ce Unix soit un Unix qui ne soit pas la propriété d'une entreprise, d'une université ou d'une entité particulière. Et donc, l'idée de Stallman est d'assortir ce projet d'une licence informatique ou d'un document juridique qui définira que la propriété du système d'exploitation en question, elle n'est pas privative, mais elle est publique, ce qui est une sacrée innovation.
Le logiciel libre, hein, donc c'est 85, et puis alors la licence GPL, c'est 89.
C'est 89, oui. Donc Stallman va lancer l'idée en 83, et il va lui falloir...
Il va quitter le MIT pour être tranquille.
Tout à fait. Alors, là aussi, on a un élément dont il ne faudrait pas exagérer la portée, donc Stallman va poser un geste fort, puisqu'il va dire, pour éviter que ce nouveau système, hein, ce système qu'il appelle GNU, comme l'animal, avec un jeu de mots, puisque GNU est un acronyme qui veut dire GNU is not Unix, avec l'idée que donc c'est un acronyme qui se décompose lui-même, ce qui fait toujours plaisir, c'est le genre de jeu qu'aiment beaucoup les informaticiens. Donc ce système, il a l'idée de faire en sorte qu'il soit la propriété du public, mais il va falloir attendre quelques années pour qu'il dispose et qu'il publie d'un document légal en bonne et due forme qui permet de couler ça dans quelque chose qui fonctionne au niveau juridique. C'est donc en 89 qu'il va publier la licence publique générale, qui est donc une licence qui dit ce logiciel est un logiciel qu'on appelle un logiciel libre, un logiciel dont la paternité est reconnue, la paternité de celui qui l'a écrit reconnu, mais dont la propriété est publique. Donc on distingue...
Oui, donc c'est ça. Je veux dire que ce qui est important là-dedans, c'est de faire la distinction entre paternité et propriété.
Tout à fait. Hein, on distingue bien propriété et paternité. Donc ça veut dire que celui qui a écrit quelque chose se voit reconnu comme étant celui qui l'a signé. On ne gomme pas le fait d'avoir écrit quelque chose. Et si on est plusieurs, on ne gomme pas les différents noms. Mais au niveau de la propriété, elle est confiée à tout le monde. Donc vous, moi, tous les auditeurs sont propriétaires des logiciels libres. Alors, la plupart d'entre nous n'avons jamais entendu parler du projet de Richard Stallman, GNU, mais beaucoup d'entre nous ont déjà entendu parler d'un logiciel comme Firefox, par exemple, ou comme Linux, qui sont des logiciels libres, qui sont assortis de la même licence publique générale qui garantit que la propriété est collective, qu'elle est publique.
Et que tout ça se développe de façon collective et participative, encore une fois.
Comme je disais, il faut
Il y a, chez Stallman en particulier, je pense qu'il y a vraiment de l'idéologie
tout
derrière.
Tout à fait. Alors, il y a plusieurs choses. Quand je disais tout à l'heure que Stallman pose un geste fort en démissionnant du MIT, il pose ce geste fort en disant « je ne veux pas que le MIT s'approprie
Oui, c'est ça, qu'on mette la main sur ce qu'on
mette la main. Il faut remettre un petit peu ça aussi dans le contexte et dans la personnalité de Stallman. Il y a une dimension certainement politique à son geste. Il ne faudrait pas en exagérer la portée. Stallman avait déjà démontré par rapport, avant qu'il était quelqu'un de très compétent, et donc démissionner pour lui, c'était pas quelque chose qui allait nécessairement le mettre dans le besoin. Hein, quand on réfléchit à quelqu'un qui démissionne du jour au lendemain de sa place, on se dit, quel geste fort, c'est quelqu'un qui va jusqu'au bout de ses opinions. Il s'agit ici d'un informaticien très compétent, à un moment donné où cette ressource est très rare, et dont la compétence était reconnue largement par son domaine. Donc en faisant ça, il ne se mettait pas sur la paille. Hein. Il faut quand même remettre les choses à leur place. Cela dit, effectivement au niveau juridique, en faisant ça, il garantit bien, en effet, que son employeur ne va pas pouvoir s'approprier le fruit de son travail. Alors il va se donner aussi la possibilité à d'autres de participer à ce travail-là, sans qu'à un moment donné, l'employeur de l'un ou l'autre, ou le sien, donc le MIT, s'approprie les choses. Et il faut voir que, alors c'est très particulier, on a une idéologie qui va nous rappeler hein, l'idée de collectivisation des moyens de production, donc quelque chose qui est proche du socialisme, voire du marxisme, et quelqu'un comme Stallman aujourd'hui n'a pas peur de se déclarer proche du communisme, ce qui aux États-Unis est quand même plutôt inhabituel. Cela dit, on se rend compte que dans ses motivations au départ, c'est peut-être moins l'idée de donner à tout le monde la production logicielle libre qui le motive que le fait de ne pas en être dépossédé lui-même. Hein? Si vous travaillez pour un employeur, votre production est la plupart du temps la propriété de votre employeur. Ce qui dérangeait beaucoup Stallman, lui, il n'avait pas envie qu'on enfreigne sa liberté. Et donc, la motivation de Stallman, elle est aussi libérale. L'idée, c'est ce que je produis, ça doit être à moi, quel que soit mon employeur, quelle que soit mon activité. Si j'ai envie de l'utiliser hors de mon activité professionnelle, je dois pouvoir le faire. Et donc, on a une combinaison assez originale.
Oui, parce que je dirais que c'est même le fin du d'une sorte de libéralisme à la Adam Smith. Enfin, je veux dire, commun vient de la liberté individuelle, quoi,
c'est ça. Donc,
et de la poursuite de ses intérêts personnels.
On a un agencement assez étonnant au niveau politique entre libéralisme et quelque chose qui relève plutôt du socialisme. Et on aurait tort, à mon avis, d'essayer de l'écraser sur une des deux positions. Ce qui fait que cette position est originale, est intéressante, et je le répète, une vraie innovation au niveau du droit, c'est cette combinaison entre liberté individuelle poussée au plus loin et l'idée de collectiviser la propriété.
Il y en a un qu'on a oublié en cours de route aussi, quand même, il faut en dire un mot, parce que je pense qu'on est de plus en plus nombreux à être confrontés à son existence. C'est le fameux réseau, c'est le fameux système d'exploitation Linux, qui est une émanation, lui aussi, au fond, de cette trajectoire initiée par Stallman, cette alternative à Unix, etc.
Donc la création de Linux se fait vraiment dans la suite directe d'un Stallman. Mais au début, c'était pas un suiveur de Stallman, c'est quelqu'un qui vient juste après. Hein. Donc Linus Torvald est un...
Oui, là aussi, mais vous parliez au fond de GNU, hein, donc mm-hmm. Ce que désignait ce mot. Mm-hmm. Linux, c'est génial aussi, parce que c'est l'anagramme de Unix, et en même temps, c'est Linus Torvald. Voilà, hein, donc, c'est fantastique.
C'est le prénom de la personne qui a lancé le projet. Et donc, en changeant la dernière lettre, on fait l'anagramme de Unix. Donc, au départ, c'est un étudiant finlandais. Quand je disais que les origines de ce qu'il y a...
Ah, on est loin. Oui.
Hein, on a tous les pays...
On est loin de Boston.
Oui. On est loin de Boston. Donc, cet étudiant, lui, au départ, est un passionné de technologie. Et il essaye de comprendre comment fonctionne... les machines électroniques et ce qui commence à être des ordinateurs personnels. Alors, il essaye d'une part de comprendre comment fonctionne l'ordinateur personnel qu'il s'est offert à coup de mise en commun de budget d'anniversaire et de tonte de pelouse. Je schématise à peine. Et en même temps, étant inscrit à l'université, il connaît l'existence des réseaux informatiques. Et donc, il va essayer de pouvoir utiliser les réseaux informatiques auxquels il a accès à son université à partir de son domicile, donc à partir de son ordinateur personnel, en utilisant un modem, ce qui n'est pas en soi particulièrement innovant. Mais vu qu'il a la motivation de comprendre comment ça marche, bah plutôt que d'utiliser des choses qui pourraient être disponibles dans le commerce et qui fonctionnent, il va essayer de le faire lui-même. Donc de nouveau, on est face à un bricoleur, à quelqu'un de débrouillard qui n'a pas peur de démonter ce qu'il a face à lui. Et donc il va modifier son propre ordinateur pour essayer de se connecter à l'université. Alors, il y va progressivement, ça va quand même relativement vite quand on regarde le calendrier, mais il y a une série de tests plus ou moins concluants, il avance progressivement. Et vu qu'il a envie de faire ça correctement, il va poster des annonces de nouveau sur Usenet pour poser des questions sur les fameux standards, les fameux protocoles. Aujourd'hui, ça nous semble évident que tout ça est accessible en tout point, mais à l'époque, c'est pas si évident que ça. Et donc, il va dire, mais tiens, si vous avez des détails sur comment fonctionne tel type de protocole, je suis intéressé. Il va avoir certaines informations qui vont lui être transmises par des personnes qui ont vu son message. Et d'autres choses, il va y aller de manière beaucoup plus empirique, en faisant des tests. Et progressivement, par essai erreur et par une volonté d'aller de plus en plus en profondeur dans la compréhension de son ordinateur, il va passer de son projet initial qui est simplement pouvoir visualiser sur son écran d'ordinateur des messages qui sont envoyés à distance à son université, à concevoir l'élément le plus bas, le plus fondamental d'un système d'exploitation qu'on appelle un noyau. Et donc, il va en arriver à concevoir le noyau d'un système d'exploitation, pas un système d'exploitation complet, mais le noyau, qu'on connaît encore aujourd'hui comme le noyau Linux. Or, il se fait que le projet de Richard Stallman, qui se développait bien, le projet GNU, disposait d'un grand nombre d'éléments d'un système d'exploitation, mais il lui manquait justement un noyau. Et donc, c'est la réunion entre ces deux projets, le projet de Richard Stallman de système d'exploitation complet, mais auquel il manquait un noyau, enfin, il avait un noyau, mais qui n'était pas encore fonctionnel, et le fait que ce petit étudiant finlandais ait finalement développé un noyau, les deux vont se rassembler pour donner les systèmes d'exploitation Linux qu'on connaît aujourd'hui, dont on entend parler, que certains d'entre nous ont peut-être eu la chance d'utiliser. Et donc, c'est pour ça que chez...
Et qui sont des logiciels libres.
Et qui sont des logiciels libres, oui. Et donc, on aurait, si certains des militants pour le logiciel libre, mettre un point d'honneur à ne pas parler de Linux, mais de GNU Linux, pour souligner que si le noyau est bien Linux, bah, pour pouvoir faire fonctionner le système, on a besoin aussi de tous les autres outils qui viennent du projet GNU. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Linus Torvald, au début de son travail, avait finalement fonctionné comme tous ses prédécesseurs qui développaient des bouts de code. Il n'avait pas vraiment spécialement beaucoup réfléchi à la question de qui était propriétaire de quoi dans le petit bricolage que lui avait fait. Et puis, après quelques mois, il a décidé d'assortir sa production de la même licence de logiciel que celle de Richard Stallman, donc de la licence publique générale. Et donc, le noyau Linux est un logiciel libre, le projet GNU est un logiciel libre, le système qui en résulte, le système GNU Linux, est un logiciel libre, ce qui veut dire qu'il est conçu par toute une série de personnes. Il y a des morceaux qui sont conçus par Richard Stallman, il y a des morceaux qui sont conçus par Linus Torvalds, mais il y a plein de morceaux qui sont conçus par plein d'autres gens. Et ce système, il appartient à qui ? Il appartient au public.
Et là, on est aux alentours de 1991, c'est le début des années 90.
Début des années 90, oui, tout à fait.
Nous retrouverons Christophe Lejeune la semaine prochaine pour la suite de ce récit de l'histoire d'Internet, qui est donc le thème de son ouvrage « Internet 2.0, une histoire de l'Internet » publié aux éditions du Centre d'Action Laïque. Cette émission a été réalisée par Marie-Noëlle Dumoulin et André Remy. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.
Retrouvez Mémo le samedi de 17h15 à 18h.
La première.